Cyril Dion est réalisateur avec Mélanie Laurent du film Demain, César du meilleur film documentaire en 2016. Cyril Dion était l'invité des tribunes de l'ULB le 8 mars 2017 à l'Auditoire La Fontaine, au campus du Solbosch de l'ULB. Le débat est animé par Edwin Zakaï, professeur à l'Université libre de Bruxelles et directeur du Centre d'études du développement durable, en partenariat avec la Faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB, la Fédération Inter-Environnement Wallonie et la Fondation d'utilité publique Biplanète. Retrouvez maintenant Cyril Dion.
Tribune
de l'ULB.
Un point de vue.
Un débat.
Vous êtes très gentil.
Alors, quelques mots d'introduction. Donc, vous êtes à la fois, on va dire, un militant, mais aussi un artiste avec une formation de comédien. Et vous avez publié notamment un recueil de poésie en 2014. Vous avez été, ou vous êtes, directeur du magazine Kaizen.
J'ai été, oui.
Et donc, Kaizen, comme vous l'avez tous compris, ça veut dire en japonais Kai, changement, et Zen, bon. Et autrement dit, philosophie d'un changement durable par l'action à petits pas. Vous avez tenu une chronique, et si vous regardez ces chroniques, vous voyez que ça dépasse de loin l'écologie. Il y a des questions sur le sens de l'humanité, les conflits, vous avez travaillé sur des conflits. Et chaque fois, il me semble qu'un des fils rouges, en tout cas depuis un certain nombre d'années, c'est les actions concrètes et la difficulté aussi, la tentative de réconcilier discours et vie. D'accord. Et voilà, donc ceci demande une grande conscience et une certaine profondeur. Alors, aujourd'hui, un enjeu crucial, c'est de faire baisser les impacts sur l'environnement, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi de le faire avec une attention à l'humain. Et je pense qu'une des questions, c'est de comment favoriser des formes de réalisation de soi, des formes de bonheur ou de réalisation de soi, qui peuvent être vécues avec moins d'impact matériel. C'est très important aujourd'hui, et ça doit se faire aussi en tenant compte de questions d'équité, bien sûr, au niveau national ou international. Alors, Cyril Dion a fondé avec Pierre Rabhi et quelques autres le mouvement Colibri, avec ce petit oiseau, et l'idée que chaque individu, aussi petit soit-il, peut faire sa part. Colibri promeut des initiatives de permaculture, jardin partagé ou de microfinancement, entre autres, et il y a d'ailleurs des échos dans le film. Alors, vous avez aussi coproduit via ce mouvement un film déjà en 2010, le film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global, qu'on avait d'ailleurs projeté à l'ULB à l'époque. Le début du film, Demain, est très significatif. Je vais vous le lire, vous le rappeler pour la plupart d'entre vous. Alors que l'humanité est menacée par l'effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphaël et Antoine, tous trentenaires, partent exploiter le monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et à travers eux la nouvelle génération. À partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines, agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie, ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l'avenir. Donc ça, c'est le début du film, et ce film est sans doute en passe de marquer une génération à travers son approche concrète orientée sur des solutions. Et comme vous le rappelez dans un article récent d'un reporter, l'accumulation des nouvelles anxiogènes actionne dans le cerveau des mécanismes de peur et par conséquent de déni et de fuite. Ici, c'est l'inverse qui est prôné et certainement que ça a fait beaucoup pour le succès du film et ça a marché probablement au-delà des espérances des auteurs. Alors avant de commencer l'entretien, je voudrais encore prendre quelques minutes pour remercier plusieurs organisations qui ont rendu possible cette soirée. La première, bien sûr, c'est l'ULB et la série des tribunes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que celle-ci, comme d'autres, est filmée et sera mise sur le site des tribunes, mais qui est accessible via YouTube. Alors après, il y a l'association Inter-Environnement Wallonie qui a fêté l'an passé ses 40 ans. Et qui organise à l'ULB une exposition pour quelques semaines que je vous invite à aller voir, avenue Paul Léger, dès qu'il arrête de pleuvoir. Alors, elle s'appelle Génération Planète Attitude, et on y trouve des expériences de citoyens, des alternatives citoyennes, pour prendre le terme de la soirée, et qui sont replacées dans leur contexte. IOE, Inter-Environnement Wallonie, se compose d'associations, mais aussi de chargés de mission qui se trouvent à Namur et qui cherchent à influencer la politique régionale à travers des mécanismes de concertation. IOE regroupe 150 associations, depuis des petites jusqu'à des grandes, comme Greenpeace ou WWF. Alors, il y a aussi l'association, ou plutôt la fondation d'utilité publique Biplanète, qui nous a aidés à organiser ceci, dont Cyril Dion est l'un des parrains. Et cette organisation soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l'environnement, avec des petits projets ou des plus grands, par exemple le jardinage sans pesticides, journée sans viande, ou même le rôle du hérisson dans les jardins. Et une des caractéristiques de Biplanète est de considérer les entreprises comme une partie de la solution en les associant à la dynamique citoyenne. Et enfin, il y a aussi la Fondation Bernheim, qui est aussi d'utilité publique et qui soutient depuis plusieurs années un pôle environnement et société à l'ULB qui permet de réaliser des conférences avec des sujets liés à ces thèmes. Voilà. Alors, à présent, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je pourrais peut-être vous demander, en guise d'introduction, de nous rappeler un petit peu la genèse du film et quelques éléments sur son succès, sur les réactions, sur le type de public que vous avez touché. Est-ce que ce sont vraiment surtout des jeunes? Est-ce que ce sont des urbains? Enfin, quelques éléments sur le film. Et après, on va parler davantage du contenu.
Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Qui est-ce qui a vu le film, juste pour que j'aie une idée, déjà? D'accord.
Qui est-ce qui ne l'a pas vu?
Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Moi, j'ai fait ce film parce que, au départ, quand je dirigeais cette ONG, ce mouvement qui s'appelle Colibri, j'avais l'impression qu'on passait notre temps à demander aux gens d'arrêter de faire des choses. D'arrêter de manger de la viande, d'arrêter de prendre des bains, d'arrêter de prendre l'avion, d'arrêter de consommer. Et que c'était assez inefficace de demander aux gens perpétuellement de tout arrêter sans leur proposer quelque chose qui les enthousiasme, qui leur donne envie de faire autrement. C'est très difficile de quitter, entre guillemets, des habitudes, un quotidien, pour aller vers on ne sait pas quoi. Et comme on est dans une société qui est plutôt dans une mécanique de pousser à consommer, de montrer que avoir un maximum de choses, de changer de téléphone tous les 6 mois, d'avoir une super grosse bagnole et tout ça, c'est vraiment génial. C'est très compliqué d'aller contre ça, d'aller contre la publicité que les gens voient tous les jours, par exemple, la mode, en étant dans une démarche de privation. C'est vraiment très, très, enfin, c'est très inefficace, à vrai dire. Donc, j'ai commencé à me demander ce qui pourrait être une stratégie plus efficace, plus propice. Et j'ai lu un livre, je crois que c'était en 2010, qui s'appelle « L'espèce fabulatrice » d'une romancière et essayiste qui s'appelle Nancy Houston, et qui dit en substance que les êtres humains sont la seule espèce qui a conscience qu'elle va mourir, et qu'à ce titre-là, on perçoit notre existence comme quelque chose qui a un début, un déroulement et une fin. Et que ça, c'est le propre d'un récit, d'une histoire. Et que les êtres humains sont comme des machines à raconter des histoires et à fabriquer des histoires. Et que tout ce qu'on tient pour être la réalité est peut-être, en fait, une succession de récits et d'histoires que nous construisons. Et plus ces histoires deviennent collectives, plus elles ont un impact sur la réalité. Si je vous donne quelques exemples, quand vous vous présentez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, comme par exemple vous venez de faire avec moi, vous allez prendre un certain nombre de faits, vous allez raconter un certain nombre de choses dans votre vie, vous allez les mettre bout à bout et ça va constituer une histoire qui pourrait être racontée complètement différemment parce qu'on pourrait prendre d'autres faits de votre vie, le jour où vous avez été un parfait salopard, le jour où c'était le moment où vous avez eu très très peur, et ça donnerait une image complètement différente de vous. Mais simplement, vous allez raconter cette histoire avec l'objectif de créer du sens et potentiellement d'obtenir un certain effet sur la personne à qui vous le racontez. Et on fait ça tout le temps. Et si vous regardez ça à une échelle plus large, plus macro, il y a un certain nombre d'histoires qui ont hyper bien marché. Par exemple, les religions. Si on regarde le christianisme, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un livre qui s'appelle « Le Royaume » d'Emmanuel Carrère, très intéressant, qui raconte les débuts du christianisme et qui raconte comment Paul, que donc les chrétiens appellent Saint Paul, a été un des premiers en fait, à promouvoir le christianisme. Et c'est vraiment, ça a été lui le premier propagateur de cette religion, alors qu'il n'avait jamais rencontré Jésus, si tant est qu'il ait existé comme fils de Dieu, ça j'en sais rien, mais en tout cas, lui, il ne l'avait jamais rencontré, il n'avait été témoin d'aucun événement qu'il racontait. Mais il racontait cette histoire avec tellement de passion et un sentiment d'enthousiasme et de croyance, de conviction, qu'il a réussi à commencer à constituer un certain nombre de petits groupes qui étaient les premiers chrétiens et qu'ensuite, bon, pour plein de raisons historiques, cette religion a rencontré l'Empire romain et est devenue un phénomène mondial. Mais on peut considérer que c'est une construction, vraiment, qui est devenue collective. C'est-à-dire qu'une histoire, à partir du moment où elle fait consensus chez une large population, elle commence à devenir une structure sociale ou une évolution de l'histoire, avec un grand H. Et donc je me disais, peut-être que le monde tel qu'il est et cette société de consommation hyper matérialiste, elle est née aussi d'une histoire. Et du fait que la publicité, le cinéma, et notamment beaucoup le cinéma américain, pendant des années, nous a raconté cette histoire qui nous a donné furieusement envie de construire cette société. Parce qu'on avait envie d'avoir plus de progrès, plus de confort, d'être capable d'aller sur la Lune, d'être capable d'avoir des véhicules qui nous emmènent plus rapidement d'un point à un autre, d'avoir des choses qui nous soulagent d'un certain nombre de tâches pénibles, de faire la vaisselle, de laver notre linge, etc., etc. Et qu'on a été fascinés par cette évolution de la société. Donc, il m'a semblé que raconter une histoire et raconter une autre histoire était peut-être le moyen le plus puissant d'embarquer la société dans une autre direction. Et cette histoire aurait pu être une histoire fictionnée, c'est-à-dire qu'on aurait pu décider de faire un film de fiction en racontant une belle histoire, mais il me semblait que, étant donné la gravité de la situation aujourd'hui, il fallait aller chercher des choses réelles, des véritables expériences qui avaient fait la preuve de leur réussite, et qu'en mettant bout à bout toutes ces expériences, on pouvait commencer à tisser une vision du futur qui serait suffisamment attirante et enthousiasmante pour donner envie à des gens de le faire. Donc, on a commencé comme ça, tout en se disant c'est quand même un défi, parce que faire un film de 2 heures sous-titré qui parle de création monétaire, qui parle d'énergie renouvelable, d'agriculture... Et de démocratie, ça risque quand même d'emmerder vraiment beaucoup les gens, donc je ne sais pas qui va aller voir ça au cinéma. Mais on avait dans l'idée de trouver la forme qui soit la plus cinématographique possible, avec une narration, avec de la musique, avec des belles images, avec la capacité de s'identifier à des personnages, et on a fait de notre mieux, tout en ne sachant pas ce que ça allait donner. Et les débuts ont été un peu chaotiques, mais finalement, effectivement... le film a eu énormément de succès, il a fait un million cent mille entrées en France. On a déjà vendu près de 250 000 DVD, il est sorti dans une trentaine de pays. Ici en Belgique, je crois qu'on est à 200 000 entrées à peu près. Et puis on a eu énormément d'impact qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais dans des endroits où on projetait le film, ou alors où il y avait des gens qui l'avaient vu, on se mettait à me raconter des histoires de gens qui avaient changé de vie, qui s'étaient mis ensemble pour faire des trucs. On nous a demandé de projeter le film dans des endroits incongrus. On allait le projeter à l'ONU, à New York, à Genève, au Parlement européen. Bon, et voilà. Mais si je commence à vous raconter toutes les histoires de ce qui s'est passé après, ça va excéder le temps qui m'est imparti pour chaque réponse.
Peut-être juste, est-ce que vous avez l'impression que le public est majoritairement jeune ou est-ce qu'il y a un effet générationnel ?
C'est impossible à dire parce que je vous avoue que sur le 100 000 spectateurs en France, par exemple, j'en ai pas rencontré beaucoup. J'ai dû en rencontrer 25 000 peut-être. Donc, je ne sais pas. Ce que je sais, en tout cas, c'est que sur l'échantillon que moi j'ai vu, c'était très varié. Et c'est ça qui nous a énormément réjouis, c'est-à-dire qu'il y avait plein de jeunes qui, normalement, ne vont pas voir les documentaires écolos. La plupart du temps, c'est plutôt des gens retraités qui travaillent dans des associations, soyons clairs. Et là, tout d'un coup, on voyait des gens qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui venaient nous voir à la fin en nous disant « Merci d'avoir fait ce film, moi je cherchais du sens à ma vie, ça a donné du sens, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, ça m'a donné des idées, ça m'a réveillé. » Voilà. Et en même temps, il y avait plein d'autres gens qui étaient de toutes générations confondues, y compris des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller voir ce genre de film, ou qui ne s'intéressent pas du tout à ce genre de questions. Je me souviens toujours d'un monsieur à Aix-en-Provence, c'était dans les premières avant-premières qu'on avait fait avec Mélanie, qui a pris la parole presque le premier après la séance, où on se disait bon, hein, et qui disait « J'avais pas envie d'aller voir ce film. » Je me disais « Ça va être encore un documentaire écolo, bobo, télérama. » Et en fait, j'ai adoré. Et ça m'a donné plein d'idées, et j'ai trouvé ça formidable, et j'ai trouvé que c'est un bon film, en plus d'être juste simplement la démonstration d'un certain nombre de choses. Et c'était génial. Enfin, moi, j'ai adoré entendre ça. J'ai adoré les gens qui sont venus voir le film en traînant les pieds et qui sont ressortis en sautant dans la rue. Parce que c'est à ces gens-là qu'on avait envie de montrer le film. Pas forcément à tous ceux qui étaient déjà d'accord et qui se trouvaient simplement un peu renforcés dans leurs convictions en le voyant.
D'accord. Comme on est dans une UNIF, on va faire un peu de théorie.
D'accord. Désolé. Et donc,
bon, aujourd'hui, on utilise beaucoup le mot de transition.
Oui.
Et il y a quelques années, on utilisait le mot de décroissance davantage. On l'utilise encore.
Ça dépend qui, oui.
Et donc, je voulais vous savoir un petit peu comment vous voyez, vous définissez la transition, où vous vous positionnez par rapport à ça. Transition vers quoi ? Ou décroissance peut-être ? Quelles sont les relations entre les deux ?
En réalité, au départ, sur ces sujets-là, on parlait beaucoup de développement durable. Oui. Il y a un certain nombre de gens qui continuent à utiliser ce mot-là. Qu'une certaine partie des écologistes ou des gens qui sont engagés dans le changement sociétal n'utilisent pas, comme moi, considérant que c'est un oxymore. Ou une oxymore, je ne sais pas si c'est un oxymore. C'est-à-dire que le développement et le modèle de développement tel qu'il est envisagé, notamment dans le monde occidental, n'est pas durable. Et que le fait d'accoler ces deux mots est une façon de donner le sentiment qu'on va pouvoir continuer à faire fonctionner la société telle qu'elle fonctionne actuellement, mais en la rendant un peu durable. C'est un peu, si on a le temps, je vous raconterai comment McDonald's avait sponsorisé un événement au journal Le Monde. C'était un événement sur le développement durable, sponsorisé par McDonald's, donc déjà, ça, une forme de paradoxe là-dedans, avec la directrice du développement durable qui venait expliquer comment McDonald's faisait des économies d'énergie, utilisait moins d'eau dans l'agriculture, essayait de mettre un peu moins de pesticides sur les patates, etc. Bon. Et que tout ça allait rendre l'activité de McDonald's durable. Il y avait notamment beaucoup d'étudiants, et à la fin de... Donc, en fait, finalement, je vous raconte. À la fin... Non, mais parce que c'est très caractéristique, en fait, de la réflexion sur ce sujet-là. Et à la fin de la journée, donc, il y avait des étudiants de Sciences Po à Paris qui devaient faire une espèce de petit compte-rendu pour dire comment ils avaient trouvé la journée. Et je les vois arriver, et ils disent, on était quand même un peu inquiets quand on a vu que c'était McDonald's qui sponsorisait l'événement, mais après ce qu'on a entendu et ce que vous venez de nous dire, on est très rassurés. Et donc moi, j'ai commencé à voir la fumée qui sortait des oreilles, et je me suis levé, en plus, je me suis débrouillé pour parler en dernier, parce que comme ça, plus personne ne pouvait parler après moi, et de leur dire, mais si vous pensez juste une seconde que, par exemple, l'activité d'une entreprise comme McDonald's peut devenir durable, je suis navré de vous décevoir, mais ça n'arrivera jamais. Pour une raison extrêmement simple, qui est que l'activité même, le cœur d'activité, ne peut pas être durable. Si votre activité, c'est de faire des hamburgers avec de la viande de bœuf et donc de faire des élevages concentrationnaires qui sont une des premières causes du réchauffement climatique parce que vous avez coupé des forêts pour faire pousser du soja et du maïs pour nourrir votre bétail, parce que cette concentration de bovins émet énormément de méthane, que parallèlement à ça, votre métier, c'est aussi de vendre des frites partout et que donc vous faites de la monoculture de patates qui mécaniquement va demander des engrais et des pesticides et va utiliser une agriculture hyper mécanisée qui va elle aussi émettre énormément de CO2, va exploiter les paysans parce qu'il faut les payer le moins cher possible pour pouvoir vendre les frites le moins cher possible. Et que parallèlement à ça, la nourriture que vous vendez à ces gens va les rendre a priori obèses, diabétiques, et que cette nourriture, en plus, est une forme de standardisation, c'est-à-dire que vous allez essayer de remplacer la nourriture traditionnelle de territoire par une nourriture qui est la même partout. C'est le contraire de la durabilité. Si vous avez vu le film, ce que les experts du film nous expliquaient, c'est que pour qu'un système soit durable et soutenable et résilient, l'essentiel, c'est d'avoir de la diversité. Il faut de la diversité dans le système. Partout où il y a de la monoculture, un système ne parvient pas à être durable et résilient. Or, ce que font des gens comme McDonald's, mais on pourrait parler de Coca-Cola, une fois je me suis retrouvé comme ça, à raconter l'histoire que je viens de vous raconter, dans une agence de pub, et en fait, dès que j'ai eu fini, ils m'ont expliqué qu'en fait, c'était eux qui faisaient la pub pour McDonald's et Coca-Cola. Et donc, c'était une discussion rigolote.
La transition.
Eux, ce qu'ils font, c'est ça. J'y arrive. C'est standardiser. Voilà. Donc, on utilise effectivement plutôt aujourd'hui un mot de transition. Il y a le mouvement des villes en transition que vous avez vu dans le film. Parce qu'on a besoin d'engager la transition entre un point A qui est la société telle qu'elle est aujourd'hui et un point B qui est arriver à ce monde plus soutenable. À ce monde où nos activités peuvent arrêter de détruire la nature, peuvent peut-être même la régénérer et peuvent générer un certain nombre de richesses qui sont possibles de redistribuer beaucoup plus équitablement aux êtres humains et qui permettraient peut-être aux êtres humains de trouver un sens à leur existence qui n'est pas simplement d'être des producteurs-consommateurs, mais de s'épanouir en découvrant quel est leur talent, pourquoi ils sont faits, et de mettre ce talent au service de la société autant que de leur épanouissement personnel.
Donc ça, pour vous, ce serait un objectif, en quelque sorte, auquel devrait conduire une transition, c'est ça ?
L'objectif, en fait, on peut le résumer à un truc hyper basique, hein, qui va vous paraître super bisounours et tout ça, mais dans le fond, on veut quoi ? On veut essayer de faire en sorte que chaque être humain sur cette planète puisse subvenir à ses besoins primaires, se nourrir, être soigné, abrité, vêtu, avoir accès à l'éducation, à la culture, puisse dans un monde idéal être heureux, trouver du sens à sa vie et s'épanouir, et que le fait que les êtres humains fassent ça ne saccage pas la planète dans la mesure où on est totalement interdépendant des écosystèmes vivants qui nous entourent. Donc si on les détruit, potentiellement, non seulement on se met en danger, mais d'un point de vue moral et éthique, c'est inacceptable. C'est-à-dire, est-ce que c'est acceptable pour nous de détruire la vie de cette façon-là, simplement pour pouvoir se faire plaisir ? Au-delà même de la menace qui serait, à force de détruire la vie, ça va nous détruire, nous. Mais on peut aussi imaginer que notre capacité d'empathie peut s'élargir aux autres espèces vivantes et que, par exemple, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, massacrer les animaux de la façon dont on le fait aujourd'hui ou les faire disparaître parce qu'on détruit leurs habitats et leurs moyens de subsistance, ça ne nous va pas dans notre conception morale, spirituelle ou quel que soit le terme qu'on veut adopter de l'existence.
En fait, j'aimerais bien donner un petit contrepoint à ce que vous avez dit parce que il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, notamment en 92, le développement durable était effectivement fort mis en évidence. Et il y avait un certain nombre de gens qui en donnaient la définition que vous venez de donner, en fait. C'est-à-dire, ça doit être un développement qui permet à chacun d'avoir un bien-être soutenable. Et la notion de développement durable a notamment été inventée pour s'opposer à la croissance, en expliquant que la croissance économique n'était pas nécessairement ce qui amenait un bien-être. Alors, ce développement durable a été utilisé notamment au niveau de l'ONU, au niveau des ONG. Maintenant, il y a les objectifs de développement durable, hein, avec des objectifs sociaux, environnementaux. Et donc, il y a tout un pan qui continue sous l'égide du développement durable, qui est porté par des groupes, mais qui ne sont pas les entreprises.
Oui, oui, absolument.
Et je pense que quand les entreprises ont commencé à se revendiquer du développement durable, ça a fait du tort au développement durable. Je raconte souvent que il y a une quinzaine d'années, si vous tapiez développement durable, vous tombiez sur Inter Environnement Wallonie ou Greenpeace. Et puis après, si vous tapiez développement durable, vous tombiez sur BNP Paribas Fortis. Et voilà, donc il y a ce mouvement qui a décrédibilisé cette notion. Mais moi, ça m'est égal, la notion qu'on utilise. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir un contenu, hein, et ça, vous l'avez très bien dit. Et j'attire aussi l'attention sur le fait que demain, des entreprises vont vous dire qu'ils font de la transition.
Absolument, mais c'est déjà
le cas. Ou même aujourd'hui.
Oui, 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 oui. C'était déjà hier même. Moi, je suis allé dans plein d'entreprises qui se reconnaissent là-dedans. Ce que je veux dire, ce que je voulais juste pointer, c'est la sémantique. Vous pouvez lire un livre de Bertrand Méheux qui est intéressant, qui s'appelle « La politique de l'oxymore », justement. Oui. Et la sémantique, parfois, peut servir à faire passer des concepts pour des entreprises ou pour des politiques. C'est comme l'idée de croissance verte. C'est-à-dire de dire, on va pouvoir continuer à faire de la croissance indéfiniment, mais cette croissance sera verte, donc ça va. Et en réalité, c'est très intéressant de creuser ces concepts pour essayer d'aller voir quels sont les fondements. Et effectivement, aujourd'hui, la croissance matérielle, en tout cas, est une problématique forte. Et on peut considérer que continuer à croître avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire pour avoir de la croissance, ben, il faut que les gens consomment, il faut que les entreprises produisent, donc il faut qu'on soit dans un cycle de production-consommation presque infini. Dans le cadre d'une planète qui a des ressources naturelles qui sont finies, ben ça peut pas marcher, quoi. Il y a des gens qui disent, pour croire qu'on peut continuer à croître indéfiniment sur une planète finie, il faut être fou ou économiste. Et c'est un peu ça.
Oui, mais en même temps, pour rester sur ce terme transition, et de là, on va passer à une autre question qui me semble assez centrale pour ce soir. On peut voir que des gens font des petites activités, comme faire un compost, par exemple, et dire, ben voilà, je participe à la transition. Il n'y a aucune preuve que ce compost, est en train de se provoquer de vraiment contribuer à la transition, si par ailleurs, il n'y a pas d'autres choses qui changent. Et donc, une des questions, c'est, jusqu'où peuvent aller les alternatives citoyennes, jusqu'où peut aller l'engagement individuel, qui est nécessaire et qui est peut-être quelque chose qui différencie notre époque d'il y a une vingtaine d'années où on était plus sur des changements institutionnels. Je pense qu'il y a une vingtaine d'années, les associations avaient plus pour but d'influencer le politique à travers des concertations. Aujourd'hui, elles le font toujours, parce qu'il ne faut pas croire, hein, Greenpeace, c'est une organisation, par exemple, qui va montrer une opposition, mais en même temps, elle va collaborer aussi à trouver des solutions avec le politique ou avec des entreprises. Donc, elles le font toujours, mais on voit beaucoup plus des activités d'associations ou d'individus qui sont concrètes. Et donc, ça, c'est un changement, mais qui a évidemment ses limites, étant donné qu'il y a bien sûr toute une superstructure, toute une organisation politique économique qui limite tout ça. Et au fond, si on veut tirer les leçons de tous ces échecs, en partie en tout cas du développement durable, c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment, je crois, théorisé les obstacles. Le discours du développement durable et celui de la transition aussi d'ailleurs, est un, je ne vais pas dire bisounours, mais il est tout de même très positif, en fait. On va y arriver, ça va être bon pour ceci, pour cela, pour cela. Mais bon, il y a des obstacles. Et donc, ma question, c'est, Elle est double, en fait. Jusqu'où peuvent aller ces alternatives citoyennes ou individuelles, et quels sont les obstacles à une certaine généralisation, à une certaine transformation plus profonde?
Pour moi, en fait, je pense qu'il faut arrêter de segmenter les choses. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire la solution, c'est les initiatives citoyennes, ou la solution, c'est les entreprises, ou la solution, c'est le changement de politique. La solution, c'est tout en même temps. C'est-à-dire, ce qu'on essaye de montrer dans Demain, c'est qu'on a besoin de penser le monde comme un système, de façon globale, de prendre conscience que tout est lié. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle, dans Demain, on a toute cette partie sur la démocratie, avec cet exemple islandais de ces citoyens qui ont été jusqu'à réécrire une constitution, parce que, évidemment, à un moment, ils se rendent bien compte qu'il faut changer la règle du jeu pour que ça change plus profondément que simplement faire des jardins partagés ou faire des monnaies locales dans un coin. Mais, à contrario, si on attend simplement que le politique change et qu'on essaye simplement d'être dans contraindre le politique, sans être nous-mêmes à la fois dans la compréhension de ces problèmes et dans la mise en œuvre d'un certain nombre de choses, ça ne marche pas non plus. Je vous donne un exemple hyper simple. Quand on est allé, il y a quelques années, on m'avait demandé avec Colibri d'aider la ville de Rennes, en France, à faire son plan climat. Et donc on a créé un forum ouvert pour faire en sorte que la ville et les citoyens discutent de toutes les questions qui touchent le plan climat. On avait commencé par faire un certain nombre de sessions pour mettre tout le monde à niveau sur des connaissances. Donc on avait fait des conférences, projeté des films sur qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique, sur l'agriculture écologique, sur les monnaies locales, sur la rénovation énergétique, sur les énergies renouvelables, etc. etc. Et pendant les discussions, on s'est rendu compte que cette imbrication dont je vous parle, elle était totale. C'est-à-dire, par exemple, si on veut réduire énormément les émissions de gaz à effet de serre dans une ville, on a besoin de produire et de consommer moins d'énergie, notamment. Aujourd'hui, où est-ce qu'on produit et qu'on consomme le plus d'énergie? L'électricité, dont on parle très souvent, c'est à peu près 20% de la consommation énergétique. 80%, c'est les transports, la mobilité, et le chauffage ou la climatisation, en fonction de si on se trouve dans un pays chaud ou dans un pays froid. Donc, un enjeu énorme, par exemple dans une ville comme Rennes, c'est d'isoler les bâtiments, de faire en sorte que les performances énergétiques des bâtiments soient beaucoup plus importantes, pour qu'on ait beaucoup moins besoin de chauffer, et donc qu'on utilise beaucoup moins d'énergie, et que le peu d'énergie qu'on a besoin de produire, on le produise plutôt avec des énergies renouvelables. Si vous regardez la ville de Rennes, aujourd'hui, elle a 8% du parc immobilier. Donc, s'il n'y a pas des citoyens, et notamment les syndicats de copropriété, qui s'engagent et qui disent « mais nous, on va rénover un certain nombre de nos bâtiments », ils ne peuvent pas y arriver. Mais ces citoyens, s'ils n'ont pas, par exemple, des incitations fiscales ou des aides qui viennent de l'État, de l'Europe ou même de la ville, c'est compliqué pour eux, parce que c'est cher. C'est des investissements qu'ils ne peuvent pas faire, forcément. Autre exemple, si vous voulez transformer la mobilité dans une ville, c'est-à-dire si vous voulez faire en sorte qu'il y ait moins de voitures, qu'il y ait plus de vélos, qu'il y ait plus de gens qui prennent les transports en commun, etc. Vous avez à la fois besoin qu'il y ait un certain nombre de gens qui soient des pionniers et qui commencent à le faire, c'est-à-dire qui commencent à prendre leur vélo, qui commencent à aller voir la mairie en leur disant « nous, on veut des pistes cyclables », etc. Et en même temps, vous avez besoin d'avoir des infrastructures. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et on l'a montré dans Demain, que plus, ce que disait l'architecte et l'urbaniste, plus vous construisez de routes et plus vous avez de voitures, plus vous construisez de trottoirs ou de pistes cyclables, et plus vous avez de piétons et de gens qui font du vélo. Donc, les deux vont toujours de pair. Et pour moi, l'obstacle le plus important, pour en parler, c'est le manque de coopération, justement, entre ces acteurs. Pour moi, une des raisons pour lesquelles la démocratie a du mal à fonctionner, c'est que les citoyens ne s'emparent pas de la démocratie. Si on pense à des questions, par exemple, comme le changement climatique, qu'est-ce qui fait que des politiques, des responsables politiques bougent dans un sens ou dans un autre? Ça peut être ou les lobbies, c'est-à-dire qu'ils ont des intérêts économiques, financiers à prendre une décision plutôt qu'une autre. Ça peut être le poids de leurs électeurs, c'est-à-dire qu'ils se disent, bon, en gros, si je fais ça, les gens vont voter pour moi, ou si je fais ça, les gens vont voter pour moi, ou ça peut être la pression. Donc, notamment, parfois, la pression populaire, quand on se retrouve avec des centaines de milliers de gens dans la rue, contre un projet de loi ou pour un projet de loi, bon. Sur les questions écologiques, si on prend, par exemple, la question du changement climatique, il n'y a aucune pression des citoyens, mais vraiment aucune. Quand on fait des grandes marches pour le climat, je me souviens celle qu'on a fait à Paris l'année avant la COP21, il y avait, allez, 25 000 personnes. 25 000 personnes, ça fait peur à aucun responsable politique. C'est un non-événement. Il n'y a aucune structuration aujourd'hui, on en parle beaucoup justement avec les grandes ONG, parce qu'on se dit finalement, quand les responsables politiques veulent prendre des mesures, par exemple, pour changer le régime de retraite, ils se retrouvent tout de suite avec les syndicats, avec des organisations interprofessionnelles qui sont capables de mettre des centaines de milliers de gens dans la rue. Donc, ça fait peur, et donc ça les amène à discuter. Nous, aujourd'hui, on ne s'est pas organisé dans la société, et on ne s'est pas organisé suffisamment bien avec les grandes ONG ou les grands mouvements écologistes pour être capable de mettre ce type de pression-là. Et donc, pousser les gouvernements, mais pousser aussi les parlementaires français, européens, belges, à prendre des décisions, parce que sinon, ils vont avoir 1 million de gens dans la rue. Aujourd'hui, on commence simplement à gagner une bataille culturelle qui est de leur faire comprendre qu'il y a un électorat qui demande ça. En tout cas, là, dans les élections présidentielles en France, c'est intéressant de voir que le candidat, par exemple, de la gauche a gagné la primaire de la gauche avec le programme le plus écologiste qu'on ait jamais vu au Parti Socialiste. Parce qu'effectivement, il s'est rendu compte que dans l'électorat de gauche, il y avait des gens qui attendaient ça. Notamment parce que, effectivement, il y a eu plus d'1 million de gens qui ont été voir demain, parce que il y a le travail de gens comme Nicolas Hulot, comme Greenpeace, qui depuis des années a fait grossir un petit peu ce mouvement-là. Et donc ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que cette bataille culturelle, elle se déroule partout. Quand des gens compostent, quand des gens se mettent à acheter bio, quand des gens se mettent à prendre leur vélo. Et que tous ces indicateurs-là, qui sont parfois des indicateurs économiques, qui sont parfois des indicateurs sociaux, remontent, et que culturellement, les représentations se transforment. Et que, se transformant, elles se traduisent par des mesures politiques, par des programmes de candidats qui, encore une fois, cherchent à toucher cet électorat-là. Et puis, encore une fois, cet impact, il est extrêmement important à un autre niveau qui est dans l'addition de toutes ces actions. Parce qu'on a beau dire « Ok, faire votre truc dans votre coin, c'est tout petit et ça change rien », ou ça change pas grand-chose par rapport à ce qu'on pourrait faire à l'échelle politique. Un des chiffres qu'on donnait dans Demain, c'était de dire « Aujourd'hui, il faut 2 centrales nucléaires en France, il en faut 7 en Europe pour simplement faire fonctionner les appareils en veille. Vous n'aurez jamais aucune loi qui obligera les gens à mettre des multiprises et à éteindre la multiprise quand ils vont se coucher. Il y a un moment, c'est nous qui avons besoin de faire ça. Il n'y a jamais aucune loi qui va, encore une fois, vous obliger à prendre une douche plus courte ou à mettre une pomme douche plus économe en eau. En revanche, vous pouvez avoir des incitations économiques. C'est-à-dire que vous pouvez, comme ça s'est passé à San Francisco, rentrer dans des logiques, là encore une fois, de coopération vertueuse où, à San Francisco, plus vous recyclez, moins c'est cher. Si vous ne recyclez pas et que vous mettez tout dans la poubelle du tout venant, bah, ça vous coûte plus cher votre taxe pour les ordures que si vous mettez dans les bacs compostage et recyclage. Vous pouvez aussi avoir une amende. Et puis on vous a aussi facilité la vie, c'est-à-dire qu'on vous a mis en place des bacs qui font que, quel que soit l'endroit où vous êtes, même si vous êtes dans les toilettes d'une aire d'autoroute, quand vous vous lavez les mains, vous prenez un petit truc de papier recyclé et il y a une poubelle compostage où vous pouvez le mettre. Donc encore une fois, c'est des choses qui sont dans l'intelligence collective, dans la coopération entre différents étages qui peuvent faire la différence. C'est pour ça que pour moi, ça devient une hérésie et c'est une maladie pour moi qu'on a, nous les humains, d'opposer les choses et de dire il faut faire ça ou ça. Pour moi, il faut faire ça et ça et trouver des logiques qui sont des logiques de complémentarité.
D'accord. Et Bon, le temps passe vite. Il nous reste environ 10 minutes et puis on va passer aux questions. Donc moi, j'ai encore une ou deux questions, ou trois, ça dépendra.
De la longueur des réponses.
Bon, il y en a une que j'aimerais vraiment poser, c'est... Tout à l'heure, on a parlé des entreprises et du développement durable. Bon, on a été assez critique, mais en même temps, ce que vous venez de dire montre qu'il y a un rôle pour les entreprises, c'est évident.
Évident.
Et donc, j'aimerais bien vous poser la question de savoir, quelles sont les conditions pour que ce rôle fonctionne bien. Vous parlez souvent de concentration ou de déconcentration.
Absolument.
Ça semble être un point clé.
Oui. Voilà. Pour moi, il y a vraiment quelques indicateurs, entre guillemets, qui peuvent nous... Enfin, qui, moi, en tout cas, me guident. Il y a cette notion de diversité et qui n'est pas simplement une théorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des études économiques. Je vous encourage... Si vous en avez la possibilité, je vous encourage à vous procurer le livre de demain, qui est beaucoup plus complet que le film, et en fait tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le film, j'ai tâché de le mettre dans le livre, où il y a justement le détail de ces études. Et il y a une étude qui était particulièrement, enfin plusieurs études qui étaient particulièrement intéressantes, qui ont été menées par ce réseau d'entrepreneurs qu'on voit dans le film, qui s'appelle BAL, Business Alliance for Local Living Economies, et qui montre que plus vous avez une diversité d'entreprises sur un territoire et plus cette diversité est à la fois sur la taille de ces entreprises et sur les activités qu'elles mènent, plus vous allez créer d'emplois et plus vous allez générer de la richesse qui bénéficiera à un maximum de personnes. A contrario, plus vous allez concentrer la richesse et le pouvoir dans un petit nombre de mains et dans un petit nombre d'entreprises, plus cet argent ne va pas être redistribué, et où on va arriver à des modèles comme on connaît aujourd'hui. En gros, la répartition dans le monde, c'est à peu près 82% des richesses qui sont détenues par 8% des gens. Donc on voit bien qu'il y a un truc de répartition qui ne se fait pas du tout. Parce qu'on a des structures et on a un modèle qui est... Et c'est un modèle que je vois tout le temps, même quand je parle à des gens qui veulent monter des entreprises. Leur idée, c'est je monte une entreprise pour ensuite qu'elle grossisse, qu'elle devienne leader dans son domaine, puis qu'elle devienne leader dans son pays, puis qu'elle devienne leader dans son continent, et pourquoi pas qu'elle devienne leader mondial. Et on a des modèles type L'Oréal, qui a aujourd'hui un milliard de clients, et dont l'objectif affiché, qui est dans la stratégie du groupe, est d'avoir un deuxième milliard de clients. Et en faisant ça, en fait, on arrive à avoir des espèces de monstres qui non seulement sucent l'argent des territoires, ne le redistribuent pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment, et qui en plus potentiellement créent une fragilité énorme. C'est-à-dire que le jour où une société qui, par exemple, emploie des dizaines de milliers de personnes sur un territoire décide de délocaliser et d'aller à l'autre bout du monde parce que c'est moins cher de faire travailler des gens en Asie du Sud-Est qu'en France ou en Belgique, tout d'un coup, l'ensemble du territoire se désertifie. Et l'ensemble de l'économie et de l'emploi a disparu comme ça. Parce que, d'une certaine façon, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Donc il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc l'idée, c'est d'avoir des structures qui sont d'une taille raisonnable, qui pour moi s'enracinent sur des territoires. Là aussi, on a des études extrêmement intéressantes qui montrent que plus le siège social d'une entreprise est éloigné de l'endroit où elle produit, plus elle va tolérer, par exemple, de rejeter dans l'environnement des matières toxiques. Donc typiquement, vous avez votre siège à San Francisco et votre usine est à côté de Bruxelles. Si l'usine déverse dans les rivières des trucs super toxiques et hyper dangereux, ça vous paraît acceptable parce que c'est extrêmement loin. Si votre usine est à Bruxelles et que votre siège social est à Bruxelles, les études montrent que vous avez beaucoup moins tendance à le faire. Parce que ce que vous faites a un impact direct sur l'endroit où vous vivez et sur la communauté dans laquelle vous vivez, qui est en plus capable de vous prendre à partie pour vous dire, dites donc... vous êtes en train de tout saloper à l'endroit où on vit. C'est hyper dangereux. On a des exemples comme ça qui sont hyper intéressants. Par exemple, de Coca-Cola, qui a des, euh, qu'il y a des usines dans un certain nombre d'endroits du monde où l'usine pompe la quasi-totalité de l'eau qui est dans les nappes phréatiques. Et donc les gens qui habitent là ont à la fois plus suffisamment d'eau pour s'alimenter, pour boire, mais les paysans non plus n'ont pas suffisamment d'eau et l'eau qui est rejetée est polluée. Et donc là, c'est évidemment les citoyens qui sont obligés d'aller faire des manifestations, de se mettre ensemble pour essayer de faire fermer ces usines-là. Mais le gars qui est au siège de Coca-Cola, je ne sais pas où, à Atlanta, il le voit de très loin. C'est une ligne sur un tableau Excel ou c'est une donnée. Donc, pour moi, le fait que les entreprises soient enracinées quelque part, ça a aussi qu'elles soient situées, finalement. C'est aussi d'une importance capitale parce que, malgré toute notre débauche de technologie, on est des êtres profondément sensibles et donc on a besoin d'être en prise avec la réalité qui nous entoure pour faire nos choix. Et là aussi, je vous encourage à lire un livre passionnant qui s'appelle « Contact » de Matthew Crawford, qui explique justement le fait que l'intermédiation qu'on a entre nous et la réalité qui est constante et qui est aujourd'hui beaucoup les écrans, nous conduit à faire des choix qui sont complètement absurdes parce qu'on a perdu le contact, justement, avec la réalité et la capacité à avoir ce contact avec nos sens. Donc pour moi, l'entreprise a clairement un rôle, mais absolument fondamental à jouer, parce que l'entreprise, c'est ça qui crée l'activité. Je veux dire, c'est là où il y a le plus de puissance, de rapidité, d'agilité pour transformer la société. Mais pour moi, il est important que ces entreprises soient le plus possible enracinées sur des territoires, indépendantes, qu'elles ne soient pas cotées en bourse, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas le jeu du marché mondial, et donc qu'elles ne fassent pas l'objet de spéculations, qu'elles ne soient pas dirigées par des actionnaires qui veulent absolument avoir de la rentabilité, mais qu'il y ait là aussi la possibilité pour les entrepreneurs de réinvestir l'argent dans les entreprises, de faire en sorte que cette richesse-là, elle continue finalement à servir l'activité de l'entreprise et donc à avoir une utilité sociale et environnementale forte.
Très bien. Et alors, pour terminer, une question.
Ne prenez pas cet air désespéré parce que mes réponses sont longues.
C'est parfait, moi je vais moins travailler, c'est très bien. Non, c'est très bien. Et puis maintenant, on va avoir les questions ici, mais là peut-être, effectivement, pour qu'on ait plus de questions, on va faire circuler la parole. Mais ma question, je ne sais pas si vous avez des éléments par rapport à ça, mais vu qu'on est dans une université, vu qu'on parle de changement, vu qu'on parle de personnes qui doivent agir, bon, nous, on forme des gens. Et quels seraient vos conseils, quels seraient vos espoirs, vos rêves sur les universités, dans leurs cours, dans leurs recherches, dans leurs rôles ?
J'ai envie de dire, ce n'est pas pour l'université en soi, c'est pour l'école en général, pour le système éducatif en tout cas. Moi, j'étais extrêmement malheureux à l'école. Je n'ai d'ailleurs pas été à l'université parce que, une fois que j'avais mon bac, je me suis dit, bon allez, putain, je peux partir, je ne vais pas en redemander. Mais parce que moi, je n'étais pas adapté au modèle scolaire. Et pour moi, mon plus grand espoir et ma plus grande critique par rapport au modèle éducatif, c'est que, même si ça s'améliore, c'est encore un modèle qui est extrêmement standardisé, à nouveau, qui a tendance à considérer qu'on peut enseigner à toutes les personnes, à tous les élèves, de la même façon. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de formes d'intelligence différentes et qu'il y a des gens pour qui le modèle qui est de s'asseoir dans une salle pendant toute la journée, d'écouter un professeur parler, de copier sur des feuilles et d'apprendre par cœur, ça ne marche pas du tout. Et moi, ça ne marchait absolument pas pour moi. Je n'arrive pas à apprendre comme ça. Moi, je n'arrive à apprendre qu'en faisant des choses. Il faut que j'ai besoin, en fait, d'une connaissance parce que je suis en train d'essayer de faire quelque chose pour que ça rentre. Sinon, ça ne rentre pas. Je ne retiens pas. Et dans le système scolaire, enfin, en tout cas, à mon époque, j'espère pour vous que ce n'est plus comme ça, mais moi, à mon époque, ça ne marchait pas comme ça. On n'apprenait jamais par la pratique. Jamais. On n'apprenait que par la théorie. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a une nécessité absolue de trouver le moyen d'ouvrir l'enseignement à énormément d'approches pédagogiques différentes et de pouvoir permettre à chacun de trouver la bonne façon d'apprendre et la bonne façon de découvrir comment il fonctionne. Moi, la plupart des choses que j'ai apprises, Je les ai apprises après l'école. Et quand je me suis intéressé aux mécanismes de l'apprentissage, j'ai découvert des choses passionnantes. Par exemple, vous verrez quand vous aurez des enfants, ou si vous en avez un jour, ou peut-être vous vous rappelez quand vous étiez enfant, mais jamais personne ne vous a appris à parler. En fait, vous n'avez pas eu un prof de parole qui vous a appris à faire bon. Ça n'existe pas. Vous avez appris tout seul. Et en fait, la plupart des êtres humains apprennent naturellement tout seul, extrêmement facilement. Et la plupart des êtres humains, avant que le système scolaire les dégoûte d'apprendre, la plupart du temps, sont absolument désireux d'apprendre un maximum de choses. Quand vous regardez les enfants qui sont petits, moi j'ai des enfants de 12 et 9, et quand ils sont tout petits, ils passent leur temps à vous poser des questions, à vous demander pourquoi, à essayer de comprendre. Il y a une soif d'apprentissage et de compréhension qui est inextinguible. D'ailleurs, pour les parents, c'est chiant, au bout d'un moment, le truc du pourquoi, bon, parce que ça va bien. Et ce truc s'arrête à un moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'il s'arrête et même il s'inverse. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans des situations où il y a des gens qui sont en train de vous expliquer des trucs qui sont a priori très intéressants et vous n'en avez absolument rien à faire. Voire même, ça vous prend la tête et le seul truc que vous attendez, c'est le moment où vous allez pouvoir vous barrer de la classe. Et maintenant, c'est pire parce que vous avez des smartphones et donc, en fait, pendant qu'ils vous parlent, vous êtes en train de regarder sur, Instagram ou Snapchat ou je ne sais quoi, si on a liké votre dernier post. Et donc, je me dis, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie et quelle tristesse de se dire qu'on a passé 15 ans, 20 ans à l'école et qu'on n'en a pas tiré le meilleur. Parce qu'en réalité, on devrait sortir de l'école avec l'impression que tout est possible, qu'on peut tout faire, que le monde est absolument infini, vaste, qu'on va pouvoir y exprimer nos talents de façon totalement différente pour chacun et qu'on va pouvoir faire des choses passionnantes, utiles, grâce à toute la richesse qu'on a pu apprendre. Et puis on devrait en sortir, encore une fois, avec ce que je disais, j'ai pas été au bout de mon idée, avec la connaissance de soi. C'est-à-dire comprendre comment on fonctionne. Moi, j'ai l'impression d'avoir compris comment je fonctionnais l'année dernière. Et je vous assure que quand on comprend comment on fonctionne, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on commence à faire les bons choix. On se dit, non mais ça, je vais pas essayer de le faire. Parce que ça va pas marcher. Parce que ça me correspond pas. Je suis pas comme ça. Alors que si je fais ça, ça c'est clairement mon truc. Ça va aller 10 fois plus vite. Et donc, on arrête de perdre du temps, on arrête d'avoir une estime de soi complètement lamentable en se disant, mais je suis nul, j'y arrive pas... qui est un truc que fabrique aussi le système scolaire, hein, avec les évaluations, avec les notes. Ben vous avez eu 4 sur 20, donc vous êtes nul. Mais non, parce qu'en fait, peut-être que vous avez eu 4 sur 20 parce que la façon dont on a essayé de vous expliquer votre... j'ai ce problème-là avec mon fils en ce moment, avec la physique. La physique-chimie. Sixième, désespéré. J'ai eu 2, ok. Et en fait, c'est pas qu'il comprend rien. Parce qu'il comprend très bien quand on lui explique d'une certaine façon. C'est simplement que, un peu comme moi à l'époque, le système ne marche pas pour lui comme ça. Mais simplement, vous ne savez pas, vous, quand vous avez 11 ans ou 12 ans, qu'en fait, c'est parce que le système ne marche pas pour vous. Et qu'en fait, on a construit un système qui est hyper standard et qu'il y a plein de sortes d'intelligence. Vous ne le savez pas. Vous, la seule chose que vous savez, c'est que vous avez eu 2. Et que 2, dans le système d'évaluation et le système de représentation, ça veut dire nul. Et que si vous continuez à avoir 2 pendant des années, bah en fait, le truc nul, il est resté dans votre tête, et donc vous avez intégré un truc qui est, de toute façon, moi, je suis nul en physique et en chimie, et je ne comprends rien. Sauf qu'un jour, vous rencontrez peut-être quelqu'un qui vous parle d'une certaine façon, vous regardez un film, vous allez à une conférence, ou vous vivez une expérience, et vous vous rendez compte, et je connais des gens comme ça, qu'en fait, ça vous passionne, et que vous trouvez ça génial, et qu'en fait, vous comprenez très bien. Et vous dites, mais comment c'est possible? Et pourquoi est-ce que j'ai perdu tant d'années avant de comprendre ça? Donc voilà, mon espoir numéro un, c'est qu'on arrête avec ce système-là et qu'on se base sur toutes les recherches qui ont pu être faites sur la pédagogie depuis des décennies, sur les recherches scientifiques qui ont énormément avancé. Je vous encourage à lire un livre passionnant qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant » de Céline Alvarez, où la neuroscience montre aujourd'hui que les mécanismes qui régissent le cerveau et les mécanismes de l'apprentissage, en fait, ce qui fait que les zones de votre cerveau qui régissent l'apprentissage se déclenchent, c'est que vous êtes intéressé par quelque chose. C'est que ça vous intéresse. Si le truc ne vous intéresse pas, si vous n'y trouvez pas du sens, mécaniquement, votre cerveau ne va pas allumer les bonnes zones pour que vous puissiez mémoriser. C'est biologique. Donc si à un moment on n'est pas capable, dans une enceinte qui est censée être une enceinte cartésienne, où on fait de l'enseignement scientifique, etc., de s'appuyer sur ces recherches-là pour, en conséquence, transformer l'enseignement, je pense qu'on marche sur la tête. Voilà.
Merci pour ces conseils. On va essayer d'en tirer parti.
Vous venez d'écouter une tribune de l'ULB avec Cyril Dion, co-réalisateur avec Mélanie Laurent du film Demain, César du meilleur film documentaire en 2016. Le débat a été enregistré le 8 mars 2017 à l'auditoire La Fontaine, au campus du Solbosch de l'ULB. Le débat était animé par Edwin Zakaï, professeur à l'Université libre de Bruxelles et directeur du Centre d'études du développement durable, en partenariat avec la Faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB, la Fédération Inter-Environnement Wallonie et la Fondation d'utilité publique Biplanète.
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Depuis 1980, Radio Campus apaise bébé.